J'ai redécouvert ces dernières semaines un texte qui est parmi les textes les plus connus de la Bible. C'est un texte à la fois court et très dense. Et il a inspiré de nombreuses prédications. En étudiant le texte, j'ai découvert beaucoup de choses que j'aimerais vous partager avec vous vraiment ce matin et dans les semaines qui viennent, puisque je vais faire toute une série sur le Notre Père. Alors, je n'avais pas prévu d'être papa entre-temps. Ça tombe plutôt bien. Le texte qui nous intéresse ce matin se trouve en fait dans deux endroits de la Bible. Il y a deux versions différentes. Une se trouve dans l'évangile de Luc et l'autre dans l'évangile de Matthieu. Donc dans Luc 11, verset 1 à 4 et dans Matthieu 6, verset 9 à 13. C'est certainement le texte le plus connu, le plus lu et le plus récité du christianisme. On l'appelle donc le Notre Père, mais aussi oraison dominicale dans certains endroits. Luther a dit du Notre Père, il a dit ceci, « Je l'absorbe comme un nourrisson, je le mange et le bois comme un vieillard et n'en suis jamais rassasié. » Autrement dit, il y a de quoi faire. Pour ma part, j'ai grandi dans une église évangélique et j'ai assez peu récité le Notre Père. Je ne vais pas dire malheureusement, mais on pourrait presque le dire. Pourtant, dans mon église, il y avait une personne qui aimait particulièrement cette prière du Notre Père. Et c'est une personne qui n'a fait qu'une fois à l'école du dimanche. Mais j'étais présent. Et il nous a transmis son amour pour cette prière du Notre Père, son amour pour le Père, Dieu. Et je ne me souviens pas de beaucoup d'écoles du dimanche, mais de celle-là, je m'en souviens particulièrement. Alors peut-être certains parmi vous vont dire, oh, bon, c'est une prière que je connais. Ça va, j'ai fait le tour plusieurs fois. Et j'aimerais vous inviter à vous laisser surprendre par ce texte, comme si vous le redécouvriez pour la première fois. Alors je vous ai dit, ce texte se trouve dans deux évangiles, et il a quelques variantes. Matthieu le met dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, et Luc le met dans un contexte d'enseignement sur la prière, alors que Jésus est en Pérée, qu'il part de la Galilée. La version de Luc est plus courte que celle de Matthieu, puisque Luc omet différentes choses, qu'on verra au fur et à mesure, mais notamment la doxologie, c'est la fin du Notre Père. En tous les cas, le fait que les versions soient différentes nous montre que ce n'est pas une prière à réciter machinalement, mais qu'il y a de la substance à comprendre à l'intérieur. Et je vous invite à prendre le texte de Matthieu 6, puisque c'est sur ce texte-là que je vais détailler au fur et à mesure le Notre Père. Matthieu 6, et on commencera à partir du verset 6. Nous irons jusqu'au verset 13. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il est bon, généralement, quand on étudie un texte biblique, de regarder le contexte. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur les versets qui sont avant le Notre Père. Et je vous propose un plan pour ce matin. Nous allons d'abord parler de cette mention de prier dans sa chambre. Ensuite, nous allons partager ensemble sur cette phrase « Ton Père te voit ». Et enfin, nous irons voir le contexte dans Luc 11 où il est dit que Jésus priait. Prier dans sa chambre. Il est question d'aller dans sa chambre, mais dans quelle chambre faut-il aller? Alors, je vous ai mis un plan de maison. Est-ce qu'il faut aller dans la chambre des parents? Dans celle des enfants? Dans la chambre d'amis? Dans le salon? Dans la cuisine, c'est vrai qu'il y a la hotte. Alors peut-être que les prières vont plus vite. Peut-être dans votre salon, vous avez une cheminée. Peut-être que ça aide aussi. Non, évidemment, le choix de la pièce n'a pas trop d'intérêt. Alors de quelle chambre s'agit-il en réalité ? Vous savez que le texte original du Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot qui est utilisé ici pour chambre, qui est bien traduit par la plupart des commentateurs, en général ne veut pas dire chambre, mais veut dire kajibi, ou cellier. Autrement dit, on serait invité à aller dans le kajibi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons galiléennes, autrefois, au temps de Jésus, ne possédaient qu'une, voire deux pièces. Il y avait la pièce de vie où l'on dormait, ou alors la pièce de vie et la chambre où on dormait. Et tameion était le mot utilisé pour le cellier ou le kajibi à cette époque. Pour nous, aller prier dans la chambre ne nous posait pas de problème. Aller prier dans le kajibi, tout d'un coup, ça nous embête un petit peu plus. Drôle d'idée, n'est-ce pas ? Imaginez que vous faites partie de la foule qui suit Jésus. Vous voulez apprendre des choses sur Dieu, sur la foi, sur la vie de prière. Et voilà ce que dit Jésus, quand vous voulez prier, allez dans le kajibi. L'auditeur est interpellé. Quoi ? Est-ce que je devrais aller dans le kajibi, là où il y a le balai ? Évidemment, Jésus est en train de donner une image. Il est en train de parler de l'attitude qu'il faut avoir pour prier Dieu. Donc ne vous sentez pas obligé de vous enfermer entre votre balai et votre aspirateur pour prier ce soir. Nous allons voir exactement de quoi il est question. En fait, quand on prend le verset 5 qui précède ce que nous avons lu, vous allez voir que les choses s'éclairent un petit peu. Verset 5, il est dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Jésus est en train de critiquer une manière particulière de prier. Alors il ne faudrait pas conclure avec ce verset qu'il ne faut pas prier debout et qu'il faudrait nécessairement prier assis, ce n'est pas juste. Jésus est en train de viser quelque chose de très très précis. Pour comprendre, il faut se rappeler que les Juifs ont une vie de prière très marquée, une vie quotidienne pardon, très marquée par la prière. Il y a des règles, des coutumes, des horaires de prière. Alors, sans entrer trop dans le détail, mais qui serait très intéressant de développer, parce que c'est vraiment passionnant, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, les Juifs prient, et ils priaient donc autrefois, trois fois par jour, les 18 actions de grâce, hein, donc ce sont 18 prières qui sont apprises par les Juifs, et qui commencent toujours par ces mots, « Béni sois-tu, ô Seigneur, roi de l'univers ». De la même manière, chaque repas est précédé par « Béni sois-tu notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as créé le fruit de la terre, et puis en détail le repas qui va être mangé. » Bien sûr, pour prier, il convient d'être toujours orienté vers Jérusalem. Alors, sans en faire une règle pour nous-mêmes, je crois qu'il faut reconnaître que le peuple d'Israël a ça de particulier, qu'il est très, très, très priant. Et c'est quelque chose qui interpelle le touriste en général lorsqu'il va en Israël. Or, il se trouve que, la nature humaine étant ce qu'elle est, qu'à l'époque, certains juifs, et particulièrement les religieux, avaient pris l'habitude, au moment de la prière du midi et du soir, de sortir pour être, comme de par hasard, dans la rue au moment de la prière. Et donc, au carrefour, ils se trouvaient là et ils devaient prier puisque c'était l'heure de la prière. Ils étaient donc très visibles et on pouvait facilement dire oh, « Quel homme pieux ! Quel homme spirituel !» Et c'est en fait cette attitude-là que dénonce Jésus. Jésus dit de ces gens, ils ont déjà leur récompense. Ah oui, ils sont félicités par les autres hommes, ça suffit. Et voilà que Jésus dénonce cette façon de faire et dit, ah, quand tu veux prier, va dans le kajibi. Jésus est en fait en train de souligner l'humilité qu'il convient pour prier. Alors, cette idée de kajibi, c'est aussi une idée de se retrouver dans l'intimité avec Dieu. Dieu, dans la prière, nous veut humbles. Il s'intéresse à nous dans l'intimité de nos cœurs. Alors, il ne s'agit pas de faire une compétition entre gens qui prient. Parfois, quand moi j'étais plus petit, il ne faut pas le dire, il y a des ados, mais tant pis, je vais le dire quand même. Quand j'étais plus jeune, dans mon église, je faisais un concours, j'avais un chronomètre. Et pendant le temps de prière, je chronométrais les gens qui priaient. C'était toujours la même dame qui gagnait. Mais il ne s'agit pas de faire une compétition de prière. Il s'agit de rentrer dans l'humilité avec Dieu. Alors il y a d'autres textes dans la Bible qui nous parlent de cette humilité dans la prière. Vous pouvez prendre Luc 18. C'est une parabole que l'on connaît bien. Luc 18, versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » On voit bien cette notion de l'humilité dans la prière. D'ailleurs, le verset des versets 5 au verset 7, vous avez une petite différence si vous regardez bien en français. Verset 5 et verset 7, il est question de vous, lorsque vous priez. En priant, ne multipliez pas. Et le verset 6, qui parle de l'humilité, qui parle de ce secret du kajibi, eh bien, c'est tu, ta chambre, ta porte, ton père, il te le rendra. Une petite nuance entre le vous et le te, tu. On est dans l'intimité. C'est une relation intime, privée, entre une personne et Dieu, qui est une prière comme Jésus l'entend. Ce n'est pas une prière spectacle où le but est d'être admiré par le passant ou pour nous, par l'auditoire présent. Alors Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut prier que seul. D'ailleurs, il a prié avec ses disciples. Et on voit dans Actes des Apôtres que les disciples priaient ensemble. Nous pouvons prier les uns avec les autres et nous sommes encouragés à le faire. D'ailleurs, la prière qui nous intéresse commencera par notre Père et pas par mon Père. Mais Jésus ici, il insiste sur l'humilité. J'aimerais vous poser une question. Lorsque nous prions les uns les autres, est-ce que nous cherchons à discuter avec Dieu, à entendre sa voix, ou est-ce que nous cherchons à être vus des hommes, ou à pouvoir nous dire simplement « Oui, c'est bon, j'ai fait ma prière, je suis un bon chrétien. » Je dois humblement reconnaître que pour moi, c'est plus facile de prier avec des amis que d'aller prier dans le kajibi, ou dans l'intimité, pour faire simple. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui va prier sur le rond-point du Coteau ou place Napoléon, entendez-moi bien. Mais c'est vrai que dans ma vie privée, dans ma vie intime avec Dieu, il est parfois difficile de prier. Et c'est vrai que j'ai toujours du temps pour mes amis, j'arrive à en trouver, mais pour Dieu, j'ai parfois du mal. Et il y a quelque chose d'assez particulier quand je veux prier, tout d'un coup, il y a plein de choses qui font comme obstacle. Le téléphone sonne, je reçois 15 mails d'un coup. Et j'ai plein de difficultés finalement pour prendre ce temps que j'aimerais partager avec Dieu. Spurgeon disait qu'il est étonnant de trouver du temps pour tout, sauf pour nous mettre à l'écart avec Dieu. Ces paroles de Jésus, « Va dans le kajibi », m'encouragent en réalité à prendre du temps avec Dieu. Alors il y a une image qui n'est pas biblique, mais que j'ai trouvée aussi intéressante, c'est que moi, pour être dans mon kajibi, je dois sortir l'aspirateur, le balai et les cartons qui sont dedans. Et je me demande si, lorsque je veux prier, il n'y a pas des choses que je devrais sortir et mettre de côté. Dans le kajibi, il n'y a pas Internet. Dans le kajibi, il n'y a pas la télé. Dans le kajibi, il n'y a pas le téléphone. Il n'y a même pas les enfants. Je suis seul avec mon père. Toi, lorsque tu veux prier, va dans le kajibi. Quand tu pries, dit Jésus, entre dans le kajibi et ferme la porte. Et prie ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Je trouve intéressante cette phrase. Vous, je ne sais pas, mais elle m'a un petit peu embêté au début. Lorsque quelqu'un prie dans le secret, il espère être entendu par Dieu. Or là, il n'est pas question qu'il ait entendu, même si Dieu entend. Il voit Là encore, l'auditeur est embêté. Moi, quand je prie, j'ai envie d'être entendu, j'ai pas envie d'être vu. J'ai plein de choses à dire à Dieu, mais Dieu me voit. Alors, bien sûr, Dieu nous entend, et il tient compte de ce que nous disons. Il n'en perd pas une miette. Mais il ne fait pas qu'entendre, il nous voit. En fait, Dieu connaît même mon cœur, mes secrets, ce que je ne dis pas, et même les choses que je ne dis à personne. Dieu sait toutes choses. Il connaît mes bons côtés, mes mauvais côtés. Il connaît mes luttes, il connaît mes tentations, mes combats, mes échecs, mes souffrances, tout ce que je cache derrière mon sourire public. Dieu me voit. En réalité, la prière, ce n'est pas une réunion d'information où je vais dire à Dieu tout ce qu'il ne sait pas. On va le mettre au courant de telle ou telle situation. Ce n'est pas ça. Dieu sait toutes choses. Dans le psaume 139, non, ce n'est pas celui-là. C'est une bêtise. Dans le psaume 139, il est dit que la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà le Seigneur connaît entièrement ce que je vais dire. Dieu voit celui qui prie. Il y a là plus qu'un échange verbal, du coup. Je suis en face de celui qui voit dans le secret de mon cœur. La prière ne va pas dépendre, du coup, du nombre de paroles que je vais dire. Pendant un moment dans ma vie de jeune chrétien, je croyais que le nombre de prières allait déterminer l'action de Dieu. Donc il fallait que je prie un maximum de fois pour un sujet de prière pour que Dieu exauce ma prière. Et quand je ne voyais rien arriver, je me disais que je n'avais pas assez persévéré, que peut-être je n'avais pas atteint le quota de prière qu'il fallait atteindre pour obtenir l'exaucement de cette prière-là. Jésus dit les choses très clairement. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus s'élève donc contre l'idée qu'en harcelant Dieu, comme un moulin à prière bouddhiste, hein, peut-être vous connaissez, ils le feront fléchir. Chers amis, Dieu n'est pas un Dieu pervers qui calcule combien de fois on a demandé. Il faut pour ce sujet de prière 1000 prières. Ah, pas de chance, t'as prié que 998 fois. C'est ballot, à deux près. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pas ça la prière. Quand il demande de persévérer, c'est pas parce qu'il y a un quota de prières à atteindre. Dieu ne met pas non plus une note à notre prière. Hein, si on a la moyenne, on est exaucé. Si on n'a pas la moyenne, on n'est pas exaucé. On est très loin du Dieu de la Bible si on considère Dieu de cette manière-là. Dieu aime ses enfants. Parfois aussi, et c'est assez triste, certains essayent de convaincre Dieu du bien fondé de leur sujet de prière. Comme si c'était un Dieu méchant, avec qui il fallait négocier pour que Dieu soit bon. Comme si Dieu avait envie d'écraser les gens. Seigneur, tu vois, cette personne n'a pas eu de chance. Et puis on détaille toutes les difficultés de la personne. Comme s'il fallait convaincre Dieu d'être bon. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu sait et il aime les personnes. Il aime tellement la personne pour qui vous priez qu'il est mort pour elle à la croix. Il n'est donc pas besoin de multiplier les paroles pour convaincre Dieu de faire du bien à cette personne. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu n'est pas comme un Dieu méchant, comme un empereur là, qu'il fallait convaincre de s'intéresser au peuple alors que lui, il profitait de la vie. Dieu n'est pas comme ça. Dieu s'intéresse à nous. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Dans Matthieu 7, il est dit ceci, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Dieu est bon. J'aimerais maintenant m'intéresser au contexte dans Luc 11, qui se trouve aussi avant le Notre Père. Je vous invite à prendre Luc 11, verset 1. Luc est assez bref sur l'introduction du Notre Père. Il dit ceci. Jésus, prier un jour dans un certain lieu. Pas dire que ça soit très précis, hein. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » On pourrait en réalité passer très vite sur cette introduction. Un disciple lui demande « Enseigne-nous à prier », bon voilà, rien à signaler. Oui, sauf que nous avons vu tout à l'heure que les Juifs savent prier. Depuis leur plus tendre enfance, ils prient même. Trois fois par jour, tous les repas, ils prient à la synagogue, ils prient à chaque sabbat, ils prient lors des fêtes. Ils prient personnellement aussi leur sujet de prière personnelle. Alors c'est une évidence, ils savaient prier. Mais ce disciple voit Jésus. Il voit que Jésus a une qualité de vie de prière que lui n'a pas. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est différent lorsque Jésus prie. Il y a un truc. Et le disciple, du coup, avec les autres, ben, demande, Seigneur, enseigne-nous à prier. Je veux apprendre à prier comme toi tu pries. Les disciples désirent connaître le secret de cette intimité entre Jésus et Dieu. Ce n'était pas une technique, un art ou un acte rituel qu'ils recherchaient, mais ils voulaient s'adresser à Dieu comme Jésus le faisait. Je me suis demandé quelle différence il pouvait y avoir entre la prière de Jésus et la prière qu'eux connaissaient. Je crois que la première des choses, c'est que la prière de Jésus ne s'arrêtait pas juste au moment de la prière. Je pense que ça transpirait dans toute sa vie. Jésus avait un cœur à cœur avec Dieu. Et ce n'était pas que lorsqu'il était à genoux pour prier. Il avait ce cœur à cœur avec Dieu à chaque instant de sa vie. La vie de Jésus nous montre un homme humble qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il a été soumis à la volonté du Père jusqu'au bout. Mais il ne s'est jamais pris pour un héros. Il a toujours été dans cette dépendance avec Dieu. On retrouve l'humilité. Il était pourtant le Fils de Dieu, mais il n'a jamais négligé sa dépendance avec Dieu. Lorsque je prie, Dieu ne s'intéresse pas à la tournure de mes phrases, savoir si j'utilise le plus que parfait du subjonctif. Dieu s'intéresse à moi. Dans 1 Samuel 16, verset 7, il nous est dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors si vous savez utiliser le plus que parfait du subjonctif, je suis très content pour vous. Vous pouvez prier au plus que parfait du subjonctif, ça ne pose aucun problème. Mais vous pouvez aussi prier très simplement. Dieu entend, il voit. Dieu n'est pas impressionné par mes grands airs, par mes grands discours qui, pourtant, me permettent de bien paraître en société. Dieu n'est pas impressionné par mon intonation, par le fait que j'exige des choses. Dieu n'est pas impressionné par mon langage fleuri. Dieu n'est même pas impressionné si j'arrive à citer de Genèse à Apocalypse tout le texte biblique. Vous savez, ce genre de prière où à la fin, quand les gens ont prié, on n'a pas envie de dire Amen, on a envie de dire ouf. Alors c'est vrai que lorsque je suis en public, je fais attention aux mots que j'utilise parce que je veux que les autres comprennent. Mais dans l'intimité avec Dieu, je peux être comme je suis. Je peux être sans masque, sans maquillage, juste en face de celui qui m'a créé. Les bonnes paroles n'ont alors aucune importance. Dieu me voit. Et il me regarde de son regard d'amour qui transforme. Il connaît tous les mauvais coups que j'ai reçus. Il sait absolument tout de moi. Il connaît mes luttes, mes tentations. Il connaît mes rêves brisés. Et il connaît aussi les rêves que je porte encore. Dieu voit tout ça dans la prière. Pour lui, il n'y a pas une seule zone d'ombre. En fait, il me connaît mieux que moi-même. Alors lorsque je vais prier, je ne veux pas y aller pour l'informer de ce qui se passe, mais juste parce qu'il souhaite un partage avec moi. De la même manière, Maximilien vient parfois me trouver. Alors, je ne me compare pas du tout à Dieu, hein, qu'on s'entende bien. Mais j'aime bien quand nous discutons ensemble. J'aime bien qu'il me partage ce que lui vit. J'ai pas besoin qu'il me fasse un compte-rendu des événements familiaux. J'ai pas non plus besoin qu'il me dise ce que je dois faire avec Natacha. Ce que j'aime, c'est un partage avec lui. Et je crois que de la même manière, Dieu n'attend pas qu'on lui fasse un compte-rendu de ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Je pense pas que Dieu attende de notre part qu'on lui dise comment agir avec telle autre personne. mais il souhaite un partage avec nous. Je crois que c'est cette intimité-là que le Seigneur Jésus avait avec Dieu. Apprends-nous à prier. Dans Hébreux 4:13, il est dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Combien de fois j'ai culpabilisé pour me dire que j'avais pas assez de foi pour que Dieu agisse dans telle ou telle situation. Combien de fois je me suis dit que ma vie de prière n'était pas assez ceci ou pas assez cela, et que Dieu devait m'en vouloir de ne pas prendre assez de temps avec lui. Combien de fois je me suis dit que je ne priais pas assez, et que Dieu ne pouvait pas agir parce que du coup je ne partageais pas mes besoins. Alors qu'en fait, la Bible dit que Dieu sait. Ça déculpabilise beaucoup. Dieu veut un partage avec nous. Je n'ai pas besoin de formuler plein de paroles. D'ailleurs, nous allons voir dans la suite de ce thème du Notre Père que le Notre Père est très court et qu'il y a très peu de paroles finalement. Comprenons-nous bien. Comprenons-nous bien. Jésus n'a pas dit qu'il ne fallait pas prier longtemps. D'ailleurs, il a passé des nuits entières à prier, avec les disciples notamment. Mais ce n'est pas la peine d'étaler toute sa science, ce n'est pas la peine de faire des longs discours non plus. Alors, peut-être vous êtes un petit peu perspicace et vous allez me dire, mais si Dieu sait toute chose, à quoi ça sert de prier? Est-ce que c'est vraiment utile? Nous avons vu que prier ne sert pas à informer Dieu. Ça ne sert pas non plus à l'amadouer ou à lui forcer la main pour qu'il veuille bien, dans sa largesse, faire un petit peu de bonté. Si je réalise que Dieu sait toute chose, je vais commencer à prier différemment. En fait, la prière n'est pas tellement pour Dieu. Elle est avant tout un privilège pour moi. Je ne veux plus prier des informations. Je veux partager ce que je vis. Je veux partager mes émotions, mes combats. Je veux écouter Dieu dans le silence. Dieu n'avait pas et il n'a pas besoin que je prie. Il n'est pas en train de s'ennuyer en espérant que quelqu'un enfin veuille lui adresser la parole. Dieu nous permet simplement d'avoir un privilège, d'avoir une intimité, une relation avec lui. Et il nous propose non seulement de parler avec lui, mais aussi d'être collaborateur avec lui. Moi, je trouve extraordinaire que Dieu veuille nous associer à son action. Il est tout puissant, nous l'avons dit en début de culte. Il n'a pas besoin de nous. Mais il a choisi de nous associer à ses actions. Son amour pour moi, pour nous, est complètement bouleversant. Dieu souhaite me rencontrer là, dans l'intimité. Alors je n'ai pas besoin de me poser la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à Dieu? Quelle phrase je vais pouvoir lui dire? Je peux tout simplement me présenter devant lui et être là en sa présence. Et recevoir de sa part. La prière n'est donc pas un moyen d'entrer en relation comme on entre en relation avec un appareil à jetons. Je fais ma prière, j'appuie sur le sujet que je veux, hop, exaucement. Le fait que Dieu sait toute chose n'exclut cependant pas la nécessité de demander. Moi, j'aime bien quand Maximien vient me voir, même si je sais qu'il a soif. J'attends aussi qu'il demande. Parce que, comme ça, il peut aussi apprendre, lui, qu'il a des besoins et à les exprimer. La prière me permet d'être humble, m'apprend à être humble. Parce que je suis obligé de demander à Dieu. Je suis obligé de reconnaître que je ne suis pas tout-puissant, mais que lui, il l'est. La vie de prière, c'est avant tout une histoire de dépendance, finalement, avec Dieu. Dans Jean 15, et je veux terminer avec ce verset, Jésus a dit des choses très clairement. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, apprends-nous à prier comme toi. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ces quelques versets qui précèdent le Notre Père. Merci parce que tu n'attends pas que nous soyons des super-héros de la prière. Tu n'attends pas, Seigneur, que nous soyons de grands linguistes qui savent manier les mots et la langue française pour pouvoir t'adresser la parole. Tu nous demandes de nous approcher de toi avec humilité, un peu comme quand on irait dans un cagibier. Seigneur, ça nous dérange comme image parce que nous aimons bien arriver avec nos grands airs, avec nos mérites. Mais toi, tu nous connais parfaitement. Tu sais tout de nous et Seigneur, c'est un privilège, alors que tu nous connais parfaitement, que tu veuilles encore nous adresser la parole. Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir entrer en relation avec toi, ce privilège de pouvoir te parler, de pouvoir t'écouter. Merci aussi pour ton amour, merci parce que tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Seigneur, aide-nous à prier comme toi, apprends-nous à prier. Amen.